paroles de l'Épître aux Galates sont très denses, à tel point que c'est peut-être un peu brutal comme réveil un dimanche matin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle reflète une situation communautaire qui n'est pas simple. C'est difficile de se mettre à la même table. Le vivre ensemble est menacé par les revendications identitaires de certains. Oh, ça n'a pas l'air bien grave de prime abord. Il n'y aurait pas grand-chose à faire pour s'adapter. Ces histoires de prescription alimentaire, je dirais, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Dans une approche un peu pragmatique, on aurait tendance à recommander à celles et ceux qui ne sont pas issus du même moule que les Juifs qui revendiquent ces pratiques et qui font partie de l'Église de Galatie, on aurait tendance à leur conseiller de consentir à faire des petites concessions, des petits aménagements pour que finalement tout fonctionne. On leur conseillerait de se plier aux habitudes des autres parce que qu'est-ce que ça leur coûterait finalement ? Ils n'ont qu'à s'adapter, tout le monde vivra en bonne entente. Mais vous l'aurez compris, il ne s'agit pas d'écuménisme bien senti dans cette histoire-là. Il n'est pas question de développer une capacité à reconnaître le vécu des autres et de comprendre leur chemin de vie spirituel, non. Il s'agit de céder face aux crispations de la majorité ou en tout cas des plus psychorigides de l'équipe. Et c'est ce que Paul veut absolument éviter. Pourquoi ? Pourquoi s'achoper sur ces petites choses ? Pourquoi déployer tellement d'énergie et de zèle à défendre une liberté qui, ma foi, n'a pas l'air tellement menacée ? Qu'est-ce que ça peut bien faire de se plier un peu aux caprices de son cœur religionnaire, si c'est pour avoir la paix ? Paul aurait pu dire « L'Évangile vaut bien une adaptation de ses petites habitudes. Ce n'est pas grave, l'essentiel, c'est que le message soit transmis. » Mais il n'en fait rien. Il nous offre un de ces développements théologiques dont il a le secret et qui peuvent donner mal à la tête si on ne le décortique pas un peu. Si Paul fait tout un plat de cette histoire, c'est parce que l'Évangile, ça n'est pas juste une vue de l'esprit, mais une manière de vivre et de tisser des liens aux autres. Et que cet Évangile a un impact concret sur notre existence au cœur du monde, dans notre quotidien. Oui, même des gestes aussi simples que ceux que l'on fait en prenant un repas peuvent être vecteurs, traduire cet évangile. L'évangile, c'est une réorientation de notre vie qui a un impact sur des choses en apparence banales et sans importance. Et puis, en même temps, cet évangile est aussi une parole de libération. Parce que toutes nos habitudes, nos petites crispations, qui parfois pèsent un peu lourd, sont relativisées et ramenées à ce qu'elles sont, une manière d'être au monde qui reste tributaire d'une réalité qui la dépasse. L'évangile ne nous commande pas d'obéir automatiquement à des règles posées de toute éternité. Il nous permet de les interpréter et d'évaluer leur pertinence. L'Évangile est une clé de lecture de la réalité et une force de relativisation de nos pratiques. Il est une source d'inspiration pour les orienter. Oui, il nous libère, cet Évangile, des automatismes et des coutumes qui ne permettent pas de faire l'expérience de sa force de renouvellement et de libération. Car oui, l'Évangile nous libère. Et qu'avons-nous fait de la liberté dans nos sociétés modernes ? Eh bien, nous en avons fait un idéal, je dirais presque un but en soi. Nous l'avons détaché de toute source transcendante, nous l'avons arraché à la sphère religieuse, j'ai presque envie de dire, nous l'avons érigé en nouvelle religion. Nous avons sacralisé la liberté. Idéalement, dans une société comme la nôtre, les lois ne devraient pas être très nombreuses. La loi ne devrait être qu'un garde-fou qui sert à préserver l'exercice de cette fameuse liberté. On devrait pouvoir orienter sa vie d'une manière qui préserve sa sphère privée, tout en permettant aux autres de préserver la leur. Or, que voyons-nous ? Nous voyons fleurir les lois. Notre corpus législatif n'a jamais été aussi dense. Et cette inflation n'est pas prête de s'interrompre. Preuve en est, les facultés de droit sont nettement plus fréquentées que les facultés de théologie. C'est comme si nous n'avions jamais fini d'organiser la protection de nos frontières, de nos convictions, de nos préférences, de notre confort, de toutes nos sphères où il fait bon vivre. Et du cœur de cette profusion de règles en tout genre, émerge l'image d'une société clivée entre des défenseurs d'intérêts contradictoires. Ces défenseurs sont toujours plus nombreux et toujours plus insécures. Car c'est bien de notre besoin de sécurité qu'il s'agit. C'est lui qui colore notre liberté et qui lui donne son caractère inquiet. Nous avons besoin, profondément besoin, de sentir que notre existence est solide et qu'elle n'est pas vaine, que tout ce que nous construisons n'est pas voué à disparaître sans laisser de traces, que malgré tout ce qui vient ébranler notre vie et nous faire douter du bien fondé de nos réalisations, nous ne sommes pas voués à l'insignifiance. Cette insécurité constitutive nous pousse toujours davantage à défendre ce qui nous porte et à créer des murs autour de nos certitudes. Ce moteur est puissant et il régit nos comportements, y compris à l'intérieur de nos communautés. Oui, nos lieux de vie sociale sont le théâtre de luttes pour la reconnaissance de nos besoins. Et c'est sur le mode du combat que se tissent nos relations entre les générations, entre les genres, entre les cultures. Nous nous regroupons en communautés d'intérêts qui défendent leurs membres et s'opposent à celles et ceux qui ne leur ressemblent pas. Oui, les personnes sont réduites à leurs opinions. Et quand quelqu'un ne pense pas comme moi, alors il devient infréquentable à mes yeux. Mais voilà que Paul arrive au milieu de nous, à nouveau, et nous dit que le but premier de notre existence, c'est de pouvoir faire table commune. De communier, au sens fort du terme, c'est-à-dire de reconnaître la personne qui est en face de moi, dans toute sa singularité, et de lui accorder une pleine attention. À l'époque, s'asseoir à la même table que quelqu'un d'autre était un signe fort, une manière de lui dire qu'il faisait partie des siens. En fait, c'était surtout une manière de distinguer les personnes fréquentables des personnes infréquentables. S'asseoir à table était un marqueur identitaire, une affirmation de cohésion avec une communauté d'intérêts, un rassemblement autour de valeurs partagées. Et voilà que Paul déconstruit cette évidence. Pour lui, être à table avec quelqu'un n'est pas une affaire de préférence. Oh, ceux qui se donnent bonne conscience en se disant qu'ils font la volonté de Dieu sont renvoyés à leur copie, hein ? Parce que Paul se souvient de son expérience. Il se souvient que par le passé, il a refusé de fréquenter certaines personnes. Il se souvient qu'il a été un fervent défenseur de sa religion et qu'il a persécuté ses ennemis. Il se souvient qu'il a combattu les disciples de Jésus. Il se souvient aussi qu'il s'est cru détenteur de la vérité à ce moment-là, une vérité qui faisait de son parcours et de son identité les seuls modèles d'une vie conforme à la volonté de Dieu. Et puis Paul a changé. Il a compris qu'une vérité qui tue ses ennemis n'est pas porteuse de vie. Il a fait une rencontre. Il a vu Jésus, ce Jésus qui a été crucifié. Et ce dernier lui a parlé. Il lui a dit en substance qu'il ne fallait pas avoir honte de sa vulnérabilité, que personne ne lui demandait d'être fort, de résoudre toutes ses contradictions, d'avoir toujours raison et de suivre un chemin de vie qui ressemble à une autoroute balisée de certitudes. Jésus lui a dit qu'il n'avait rien à prouver et que Dieu l'aimait quoi qu'il arrive. Jésus lui a dit que même lorsqu'on est crucifié aux yeux de tous, même lorsque tout le monde nous condamne, même lorsqu'on est le pire des réprouvés, ce Dieu-là ne nous abandonne pas. Alors Paul a choisi d'accueillir le Dieu de Jésus dans sa vie. Et il a compris que tout ce qu'il mettait en œuvre pour recevoir l'approbation de ceux qui lui ressemblaient n'était pas tellement nécessaire. Il a compris qu'il était porteur d'une dignité beaucoup plus grande que celle qui lui était conférée par les honneurs qu'il cherchait. Jésus était le premier à faire table commune avec toutes les personnes qu'il croisait, des gens réprouvés que personne n'osait côtoyer. S'asseoir à table avec n'importe qui, même celui ou celle qui me hérisse, c'est une manière de dire que même lui, même elle, sont porteurs de cette dignité et qu'il leur ouvre un avenir au-delà de leurs opinions discutables. Attention, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec leurs idées. Mais on côtoie d'abord des personnes, pas leurs idées. Communier avec la personne dont la pensée m'horripile, c'est aussi une manière de l'inviter à voir plus loin que ses crispations et ouvrir avec elle la porte d'un avenir et d'un sens commun. Faire table commune avec les autres, c'est pour un temps faire table rase des opinions qui nous divisent. Ce n'est pas une affaire de préférence, mais de vocation. Cette vocation, cet appel, c'est celui qui nous est lancé pour que nous acceptions d'être acceptés, malgré nos hontes et les rejets dont nous avons été victimes. Cette vocation, cet appel, c'est celui que nous répercutons autour de nous pour inviter un maximum de gens à ne pas oublier que leur liberté n'est pas un but en soi, mais un instrument qui sert à construire un monde solidaire. Cette vocation, cet appel, c'est celui qui invite les détenteurs de vérité à s'ouvrir, à reconnaître une vérité qui ne sert pas à maîtriser le cours des choses, mais à faire confiance à la créativité de l'amour. Une vérité qu'on ne possède pas, mais qu'on reçoit toujours à nouveau, dans chaque situation, à travers chaque rencontre. Oui, il y a bien une frontière, mais elle n'est pas entre les autres et moi, elle est en moi, entre cette part de moi qui accepte un amour inconditionnel et cette part qui résiste, entre cette part qui veut maximiser sa sécurité et celle qui s'abandonne à la confiance, entre cette part qui veut sauver sa vie et celle qui accepte d'être déjà sauvée. Jésus a été mis à mort par un monde avide de vérité et avare d'humilité. Il est ressuscité pour nous montrer que rien n'a le pouvoir de faire barrage à l'amour qui nous donne une reconnaissance que personne ne peut nous ôter. Amen.